Vous écoutez On lit pour vous.
On peut tout oublier sauf son homosexualité. Une chronique de Denis Daniel Boulay parue le 21 juin 2024 dans le magazine Fugue. Dans les moments importants qui ont marqué l'histoire de Fugue, un fait divers a marqué l'année 1998 et qui a fait couler beaucoup d'encre. À l'automne de cette année, un jeune homme anglophone est retrouvé dans une rue de Montréal en sous-vêtements. Il ne se souvenait de rien, ni de son identité, ni de la raison de sa présence à Montréal. La seule chose dont il se souvenait, c'est qu'il était gay. Bien évidemment, la police, ne sachant que faire de celui qu'on allait appeler bientôt l'amnésique de Montréal, on le remet aux mains de l'organisme Gay Lines. Un bénévole avait alors accepté de l'héberger malgré les réserves de plusieurs personnes de son entourage. Était-il vraiment amnésique ou ne jouait-il pas à la comédie? Est-ce qu'il pouvait être dangereux? Chacun y allait de sa propre interprétation fondée sur ses propres fantasmes. Pour Fugue, nous avions rencontré James Brighton, le prénom et le nom qu'on lui avait donné. Certes, cela ne lui disait rien, mais il trouvait que peut-être cela lui évoquait quelque chose, peut-être le nom d'une personne qu'il avait connue, croisée, peut-être son nom, et qu'il avait choisi d'endosser. Assis au restaurant, nous avions découvert avec une curiosité à peine contenue l'amnésique de Montréal, en compagnie du bénévole de Gay Lines. Une conversation qui, de notre part, ne se voulait pas trop intrusive, genre interrogatoire, tentant de calmer dans un même temps notre curiosité insatiable. Très vite, nous avons été convaincus que James Brighton n'était pas un simulateur. James répondait tranquillement à nos questions, laissant cette étrange impression qu'il ne semblait pas trop désemparé par ce qu'il vivait. Nous apprendrons plus tard que lorsqu'il était seul dans l'appartement du bénévole, il effectuait des recherches sur Internet, espérant comme par miracle tomber sur une information, un fait, n'importe quoi qui lui permettrait de rapiécer sa mémoire défaillante. Il n'était pas le seul à faire ce type de recherche. Sa photo, avec des demandes d'informations, avait été envoyée aussi bien aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne, puisque James disait qu'il était peut-être anglais. Les bénévoles de Gay Lines se démenaient pour aider James à retrouver sa véritable identité, à défaut de retrouver sa mémoire. C'est lors d'un talk-show américain qui avait repris cette histoire en diffusant sa photo que le voile allait se lever sur ce mystère. James s'appelait Matthew Honeycutt, avait 25 ans, était né dans une famille pentecôtiste conservatrice du Tennessee. Selon cette famille, James, Matthew, avait quitté son domicile en volant la carte de crédit de son frère. Et puis, on apprenait qu'il n'en était pas à sa première fugue, ni à ses premiers épisodes d'amnésie plus ou moins longs. Pour la police, plus aucun doute. James, Matthew, est entré illégalement au Canada. Accompagné par les services d'immigration et des médias, la police est venue arrêter en pleine nuit l'amnésique de Montréal à l'appartement du bénévole de Gay Lines, un peu secoué par un réveil brutal. Un petit show médiatique bien orchestré qui laissait entendre que la police n'avait jamais cru à l'amnésie de James Matthew. Bien sûr, il a été rapidement relâché avec des conditions à respecter et l'on a demandé à sa famille de venir le chercher en apportant des preuves de son identité. Lors de la controverse à laquelle il participait, sa mère et son frère ont confirmé que James, Matthew, souffrait bien d'une rare forme d'amnésie, l'amnésie dissociative. Simplement, plus la personne s'éloigne de chez elle, de lieux habituels, plus ses souvenirs s'estompent jusqu'à disparaître. Comme ce n'était pas le premier épisode dissociatif qu'il vivait, sa famille ne s'était pas plus inquiétée que cela de sa disparition et avait encore moins alerté les autorités pour le retrouver. Identité retrouvée, un passé aussi, mais raconté par la famille et les proches. Le seul mystère pour lequel on n'a toujours aucune réponse, c'est ce qui s'est passé entre son départ du Tennessee et cette nuit où il s'est retrouvé presque nu dans un stationnement du centre-ville. Denis Langlois, le réalisateur de L'Escorte et de Danny in the Sky, a trouvé l'histoire si intéressante qu'il a décidé d'en tirer un film, L'Amnésie, l'énigme James Brighton, sorti en 2005. Denis Langlois a rencontré James, Matthew et ses proches pour concevoir le scénario, avançant des hypothèses qui auraient pu conduire ce dernier à vouloir inconsciemment changer de vie, entre autres en raison de traumatismes subis dans sa jeunesse et au début de sa vie d'adulte. Une histoire d'amour douloureuse, ou encore des séances d'exorcisme, thérapie de conversion, orchestrée par sa famille, dont son frère, et bien sûr, on ne peut éviter l'interprétation de l'homophobie prégnante distillée dans son éducation pentecôtiste. Là encore, comme en témoigne le film en se fondant sur les entrevues effectuées par Denis Langlois, des zones d'ombre subsistent sur les causes de cette amnésie. Denis Langlois a encore des contacts épisodiques avec James, Matthew, et confirme qu'il ne se souvient toujours de rien, ni de ses vies avant, ni du comment il a pu se retrouver à Montréal. Enfin, presque. Il n'avait pas oublié qu'il était gay. Pour celles et ceux qui voudraient voir le film « L'amnésie, l'énigme James Brighton » de Denis Langlois, visitez le site web f3m.ca. C'était « On peut tout oublier, sauf son homosexualité », une chronique de Denis Daniel Boulay parue le 21 juin 2024 dans le magazine Fugue.
Soins à domicile. Où en sommes-nous? Un texte de Sophie Stival, paru en mai 2024 dans le magazine Bel Âge. Les demandes de services de soutien à l'autonomie explosent alors que moins de 15 % des besoins sont couverts par le système public. Qu'en est-il du fameux virage vers les soins à domicile? C'est un secret de Polichinelle. Les Québécois veulent demeurer le plus longtemps possible à la maison. Depuis 20 ans, les annonces gouvernementales se multiplient auprès de la population afin de répondre à ce désir. Pensons à l'initiative « Chez soi, le premier choix » en 2003, à « Vieillir et vivre ensemble » en 2012 et plus récemment au programme « Bien vieillir chez soi » qui dresse un bilan de la performance des services de soutien à domicile tout en proposant des recommandations. Soyons honnêtes, les nouvelles ne sont pas très réjouissantes et les défis à relever restent gigantesques. La pandémie a dévoilé à quel point les services à domicile étaient essentiels, alors que des personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap ont été carrément abandonnées. Au 30 décembre 2023, quelque 20 490 personnes étaient en attente d'un premier service de soutien à domicile au Québec, tandis qu'elles étaient un peu moins de 10 000 il y a 5 ans. Précisons que les soins et services à domicile s'adressent à tous ceux qui ont une incapacité temporaire ou permanente, de nature physique ou mentale, nécessitant de recevoir à domicile divers services et soins, incluant aussi les soins palliatifs. Les services peuvent également être destinés aux proches aidants qui accompagnent ces personnes. D'après les données du ministère de la Santé et des Services sociaux, 383 155 Québécois ont reçu un service de soutien à domicile au cours de l'année 2022-2023. Priorité au maintien à l'autonomie. La commissaire à la santé et au bien-être, CSBE, Joanne Castonguay, soulignait dans son dernier rapport de la série « Bien vieillir chez soi » que le « citation » modèle actuel de soutien à domicile doit évoluer pour faire face au vieillissement de la population. Il faut passer d'un système de soutien à la perte d'autonomie à un système axé sur son maintien. Pour ce faire, il faut, valoriser la santé et le bien-être tout au long de la vie. il faut soutenir les personnes dès les premières apparitions de leur perte d'autonomie et ne pas attendre qu'il soit trop tard pour la freiner. Fin de citation. La commissaire a également confié à la chaire de recherche Jacques Parizeau en politiques économiques de HEC Montréal le mandat de faire des projections sur ce qui attend les Québécois d'ici 2040 en matière de soutien à domicile. Voici quelques-uns de ces constats. Le Québec connaîtra une augmentation massive des besoins en soutien à l'autonomie. De 324 400 personnes ayant des besoins en 2023, on prévoit une augmentation de 223 400 personnes d'ici 2040, soit plus 69 %. Le nombre d'heures dispensées à domicile et en résidence pour aînés, RPA, est relativement faible, 21,4 % du total des heures de service fournies en 2023, alors que les besoins y sont les plus élevés, 70 % du total des besoins en heures de soins en 2023. Le nombre d'heures dispensées en CHSLD représente la grande majorité des heures dispensées, tous milieux confondus, soit près de 60 % des heures dispensées en 2023. D'ici 2040, il faudra recruter 13 700 infirmières et 45 600 travailleurs en soins d'assistance dans le secteur public à l'échelle du Québec, et cela seulement pour maintenir le niveau actuel des services de soutien à l'autonomie par usager. En discutant avec les experts, il semble évident qu'un réel désir d'améliorer les choses se manifeste depuis 2022. On est en mode solution. Et le problème ne se résume pas à une simple question d'argent. Les rapports de la commissaire à la santé et au bien-être soulignent que les services de soutien à domicile dépendent d'une variété de prestataires publics, privés et communautaires, et qu'ils sont dispensés dans le cadre de plusieurs programmes et mesures financières différentes. Malheureusement, il y a un manque de coordination d'ensemble. Quand on affirme que moins de 15 % des services sont dispensés par le système public, c'est une moyenne pour tous les services offerts. Citation : Il y a clairement un enjeu lié à l'aide domestique, alors que ce service est davantage fourni par des proches aidants, des organismes communautaires pour lesquels on n'a pas de données, ou encore des entreprises privées, constate Georges-Charles Thibault, commissaire adjoint à l'évaluation et directeur scientifique du CSBE. Dès que la perte d'autonomie est plus importante, le taux de réponse est beaucoup plus élevé, notamment pour les soins infirmiers. L'intensité des services se concentre aujourd'hui sur une faible proportion des usagers, soit environ 10 %. Fin de citation, note le commissaire adjoint. Des enjeux de société majeurs. Encore aujourd'hui, la plupart des personnes qui reçoivent de l'aide à domicile disent l'obtenir de leurs proches. C'est majoritairement le conjoint, 28 % ou un fils ou une fille, 45 % qui est le plus susceptible d'être le principal aidant des personnes de 65 ans et plus pour l'aide à domicile, révèle des données de 2019 de l'Institut de la statistique du Québec, ISQ. Les causes d'une telle situation sont multiples, et le vieillissement de la population conjugué à la pénurie de main-d'œuvre pose des défis importants. Dès 2031, un Québécois sur quatre, 25 % sera âgé de 65 ans et plus, selon l'ISQ. On souhaite donc augmenter la capacité du réseau public afin de desservir plus d'aînés, notamment en favorisant des partenariats avec des organismes communautaires, des organisations d'économie sociale et des entreprises privées. Tout cela pourrait, semble-t-il, être facilement envisageable en ce qui concerne l'aide domestique et les soins personnels. Vous écoutez « Soins à domicile, où en sommes-nous ?» un texte de Sophie Stival, paru en mai 2024 dans le magazine Bel Âge. Divers programmes de financement, pas tous bien connus. Les programmes d'aide sont nombreux et souvent méconnus de la population. Ils dépendent aussi des services offerts dans chacune des localités ou CLSC. Autre bémol, on ne distingue pas le financement des fournisseurs de services de celui des usagers. Pour savoir si un usager y a droit, il peut contacter la personne responsable du programme en question à son CLSC. Elle pourra évaluer ses besoins ou ceux de son proche aidant. Selon la ministre des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, la plupart de ces programmes seront revus et améliorés prochainement. Idéalement, il devrait n'y avoir qu'un seul programme de financement du soutien à domicile avec des modalités de paiement qui pourraient varier, suggère le dernier rapport de la commissaire à la santé et au bien-être. Le financement suivrait le patient afin de préserver sa liberté de choisir. De même, l'évaluation de la capacité financière pourrait être effectuée de manière distincte, par Revenu Québec par exemple, du processus d'octroi de services à domicile pour éviter qu'on fasse attendre des gens tant que leurs moyens financiers n'auront pas été évalués. Plusieurs provinces canadiennes, dont l'Ontario, ont mis en place le copaiement pour certains services d'aide à domicile, calculé en fonction de la capacité financière des individus, soulignait en janvier dernier le plus récent rapport de la commissaire. Comment accéder aux services à domicile? En matière de soutien à domicile, les services publics sont la responsabilité première des CLSC. Il est ici question de services gratuits ou à faible coût. Quant aux centres intégrés de santé et de services sociaux, CIS, et aux centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, CIUS, chacun a la responsabilité de coordonner les services de soutien à domicile sur son territoire. Si une personne souhaite obtenir du soutien à domicile, elle doit contacter le CLSC de sa région, qui évaluera sa situation et les besoins requis. On lui proposera ensuite un plan d'intervention ainsi qu'une prestation de service adéquate. Les soins infirmiers, le soutien psychosocial et l'assistance à la personne peuvent être fournis directement par le CIS ou le CIUS. On pourrait aussi faire appel à des prestataires externes, tels que des entreprises d'économie sociale, des agences privées et des organismes communautaires pour compléter l'offre de services. Il est également possible d'avoir recours aux programmes d'allocation directe, comme le chèque emploi-service, qui attribue une allocation financière à l'usager. Le CIS ou le CIUS pourrait enfin offrir de l'assistance technique à domicile en prêtant des équipements spécialisés aux personnes en convalescence ou pour compenser des incapacités liées aux activités quotidiennes et domestiques. Quand il faut payer et comment se faire rembourser? Cela dit, le temps d'attente est parfois long avant d'obtenir des services, car tout dépend de l'urgence des besoins. Pensons à des personnes qui requièrent des soins en ergothérapie, par exemple, qui voudront se tourner vers une entreprise privée comme Bien chez soi, qui dessert entre 4 500 et 5 000 familles par année. À sa façon, ce type d'entreprise contribue à désengorger le système public. Citation : Dès qu'un aîné nous téléphone, on le réfère d'abord à son CLSC. Même les usagers qui paient pour nos services vont, la plupart du temps, se faire rembourser ou profiter de subventions. Fin de citation, explique Mme Green. Deux tiers des bénéficiaires de ces services obtiennent une aide financière gouvernementale. Certains veulent ajouter des heures de soutien à domicile à leurs frais, en plus de ce qui est subventionné par le public. Bien chez soi favorise le jumelage à long terme entre le ou la préposée, appelé bienveillant, bienveillante, et le bénéficiaire des services. Chez Amica, on offre des soins à domicile privés à travers le Québec grâce au travail d'aide-soignante. Le tarif horaire oscille entre $34.50 et $45 selon la durée des visites, peut-on lire sur le site Web de l'entreprise. En tenant compte des différents programmes d'aide ou de crédit d'impôt, la facture pourrait être allégée. Citation : On veut collaborer avec le réseau de soins à domicile existant, qu'il soit public, privé, communautaire ou sans but lucratif. On vise tous à offrir le plan le moins cher à l'usager. Fin de citation, ajoute Alison Green, qui a également cofondé l'Association des soins à domicile du Québec, regroupant une dizaine d'entreprises comme Bien chez soi. Citation : Le problème n'est pas une question de budget, ni de joueurs en présence, ni de capacité à répondre à la demande, estime Mme Green. C'est plutôt que le réseau de santé publique n'est pas organisé et que les programmes et les subventions ne sont pas efficaces, puisqu'ils ne sont pas en mesure de fournir les services chez la personne à domicile sous une formule universelle. Fin de citation. En d'autres mots, on voudrait que des montants ou un nombre d'heures de soins à domicile soient alloués pour l'ensemble des usagers du Québec selon l'évaluation de leur profil. Mesure de l'autonomie fonctionnelle ou ISO-SMAF. Citation. C'est déjà le cas pour les personnes qui sont hébergées dans les CHSLD ou les ressources intermédiaires. Il serait plus équitable qu'on le fasse pour tout le monde. Fin de citation, ajoute-t-elle. C'était « Soins à domicile, où en sommes-nous? » Un texte de Sophie Stival, paru en mai 2024 dans le magazine Bel Âge.
Victime de la bureaucratie de l'abattoir, un texte de Philippe Mercure, paru le 3 juillet 2024 dans la presse. Les bars, j'ai le goût d'en rire, mais encore plus d'en pleurer, m'a écrit une lectrice à la suite d'une chronique dans laquelle j'exposais l'incroyable complexité du système fédéral qui permet de savoir quels bartendres doivent être taxés au pays. D'autres lecteurs m'ont confié avoir bien rigolé devant l'absurdité de la bureaucratie fédérale. Daniel Dubois et Alain Reyes, eux, oscillent plutôt entre frustration et découragement. Madame Dubois est une nutritionniste et femme d'affaires qui commercialise des collations santé. La bureaucratie de la bartendre, elle est coincée dedans. Vous connaissez sans doute Alain Reyes, ancien député fédéral conservateur devenu indépendant. Il tente d'aider Madame Dubois dans son combat contre la machine gouvernementale. Il a posé des questions à la Chambre des communes, multiplié les rencontres avec des fonctionnaires et des ministres. Leur démarche dure depuis 3 ans. Vous avez bien lu. Dans ce pays, des entrepreneurs, des fonctionnaires, des députés et des ministres dépensent du temps et de l'énergie pour discuter de bartendre, comme si on manquait de vrais problèmes à régler. Madame Dubois et M. Reyes m'ont fait réaliser que le système de taxation que je dénonçais est encore pire que je le pensais. Non seulement est-il inutilement lourd et risible, mais en plus, il est illogique et profondément injuste. Ça commence à faire beaucoup de défauts pour un seul système. En 2020, Madame Dubois se lance en affaires. Son objectif, offrir des collations santé comme solution de remplacement aux bars bourrés de sucre et de gras trans qu'on retrouve dans les épiceries. Son entreprise, Zénith Nutrition, mise sur des ingrédients locaux et bio. Elle troque le sucre raffiné contre du miel et du sirop d'érable québécois, remplace le shortening par du beurre d'amande. Pensez bouchées d'énergie à la camerise et au tournesol. Le hic, selon l'abracadabran système de classification des bartendres de l'Agence du revenu du Canada, ces produits se retrouvent du côté obscur de la force. Ils sont taxables. L'objectif du fédéral est pourtant de taxer la malbouffe et d'épargner les produits santé. Pour ça, les fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada ont élaboré un tentaculaire système de nomenclature de la bartendre dans lequel on retrouve la barre granola, la barre céréalière, la barre aux fruits, la barre aux noix, le muffin en barre et d'autres encore. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Or, il se trouve qu'en plus d'être d'une aberrante lourdeur, ce système ne fonctionne pas. Zénith Nutrition, par exemple, fabrique un carré au riz entier croustillant biologique, fait de canneberge séchée biologique, de miel, de beurre d'amande et de protéines de pois biologiques. Difficile de faire plus grano. Pourtant, mettez la recette du produit dans la machine fédérale et le verdict sort « produit taxable ». À côté, le carré au Rice Krispies fait de riz blanc, d'arômes artificiels, de fructose et de shortening de palme, lui, échappe aux taxes. Daniel Dubois a plusieurs exemples du genre et d'autres entreprises se butent au même problème. C'est absurde. Si je mettais du sucre, des gras trans ou de la farine dans mes produits, ils ne seraient pas taxés, s'exclame-t-elle. Si je mettais des guimauves dans mes carrés au riz, je serais détaxée parce que ça deviendrait un produit de pâtisserie. On la comprend de bouillir. Ses collations se vendent déjà plus cher que les bars commerciales. Se voir imposer une taxe de 15% alors que la concurrence y échappe les rend encore moins concurrentielles. Amélie Charret, coordonnatrice de la chaire de nutrition de l'Université Laval, s'est penchée sur les produits de Zénith. Ce sont des produits santé, à haute valeur nutritive, qui répondent à tous mes critères à moi pour être détaxés. Je trouve ça problématique, dit-elle. Alain Reyes a décidé de porter la cause de Mme Dubois au Parlement. J'essaie de choisir des combats qui touchent des citoyens, des entreprises ou des organismes de ma région, mais qui ont une portée nationale, explique-t-il. Ce qui me convainc aussi de me battre pour elle, c'est que les entreprises de cette taille n'ont pas d'association qui peut faire du lobbying. Tant Mme Dubois que M. Reyes sont convaincus que si le système de taxation est si tordu et donne des résultats si étonnants, c'est parce qu'il a été influencé par les grands fabricants qui ont réussi à soustraire leurs produits aux taxes. Alain Reyes a posé 3 questions à la Chambre des communes à ce sujet. Il a aussi rencontré plusieurs ministres, dont l'actuelle ministre du Revenu, Marie-Claude Bibeau. L'autre élément que je leur amène, c'est que le gouvernement dit qu'il veut baisser le panier d'épicerie. En retirant les taxes, il aurait l'opportunité d'agir directement, sans devoir demander quoi que ce soit aux chaînes d'épicerie, dit M. Reyes. La réaction? Les politiciens et fonctionnaires qu'ils rencontrent conviennent que le système est insensé, mais celui-ci ne change pas. La bureaucratie a besoin d'un sérieux coup de barre, m'a écrit un lecteur, Richard Champagne. Je ne saurais si bien dire. C'était « Victime de la bureaucratie de la bartendre », un texte de Philippe Mercure, paru le 3 juillet 2024 dans la presse.